Vous écoutez France Culture.
Il est midi 45 sur France Culture. On retrouve Martin Kénéen en direct de Jazz in Marcillac. Bonjour.
Bonjour Antoine, merci. Et Antoine Marette et toute la rédaction de France Culture vous donnent rendez-vous à 18h pour un nouveau journal. Et en public, sous le ciel de Marcillac, où l'azur perce sous les nuages, comme les notes bleues du jazz éclairant les blanches partitions, la grande table d'été vous invite aujourd'hui à partager la mémoire et les émotions d'un festival, Jazz in Marcillac, qui a fait de cette commune du Gers la mecque de la musique d'Armstrong, Coltrane et Monk, en compagnie d'un big band d'invités tour à tour sages et fanatiques. Voici bien dans l'ambiance de Jazz in Marcillac, de son off et de son in. Avant d'accueillir vers 13h15 deux grands prophètes qui feront ce soir étalage de leur super pouvoir sous le grand chapiteau, Wynton Marsalis et Richard Galliano, j'ai l'honneur d'être déjà entouré, excusé du peu, par un autre producteur de miracles musicaux, le pianiste Hervé Célin, bonjour. Mais aussi par l'évangéliste, producteur de l'émission quotidienne Open Jazz sur France Musique, Alex Dutil, bonjour.
Bonjour mon frère Marc.
Par les élèves de la section jazz du collège de Marcillac, Adèle Wong et Colline Abadi, bonjour.
Bonjour.
Et puis il y a même le pape de cette manifestation autour de la grande table, directeur et fondateur de Jazz in Marcillac, Jean-Louis Guillaumont, bonjour.
Bonjour.
Alors Jean-Louis Guillaumont, pour la 37e fois, le jazz embrase ici les meules de foin et change les champs de maïs en pop-corn. Plus de 6000 personnes se rassemblent chaque soir et jusqu'au 17 août sous le grand chapiteau, sans parler de ceux qui se massent à l'Astrada, la deuxième scène du festival. Mais à quoi ressemblait le premier concert de Jazz in Marcillac en 1978 sous un modeste chapiteau de cirque?
Pas sous un modeste chapiteau de cirque, dans une arène de course landaise qui n'en revenait pas, bien évidemment, de voir se dérouler un spectacle de jazz. C'était la première fois, c'était avec Claude Luther et un certain nombre d'intervenants qui venaient pour l'essentiel à titre gracieux et un très grand succès d'emblée, 700 personnes qui viennent assister à un concert de jazz dans un lieu tout à fait improbable.
Il y a eu un miracle dans cette arène, vous avez craint une mise à mort au départ?
Non, la course landaise, je le rappelle, respecte les vaches qui participent donc à ce sport. Non, c'était tout simplement, j'allais dire, la première manifestation mise en œuvre par le foyer de jeunes d'éducation populaire de Marcillac, c'est-à-dire une volonté d'ouverture culturelle. Et bien évidemment, nous étions à des années-lumière de penser, nous n'étions pas des visionnaires, nous étions à des années-lumière de penser que 37 ans plus tard se produirait ce que vous venez de décrire.
Oui, vous étiez à l'époque professeur au collège de Marcillac, vous étiez animateur socio-cul, comme on disait à l'époque.
Je suis devenu adjoint au maire d'une commune rurale, en charge plus particulièrement des problèmes d'éducation et de culture. Et puis donc, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes lancés dans ce qui est devenu aujourd'hui un projet culturel de territoire d'une certaine notoriété qui a un retentissement extrêmement important sur la vie de ce territoire.
Et vous, Hervé Célin, pianiste, puisqu'on parle de première fois, votre première fois, c'était sans doute pas ici, à Marcillac, mais où était-ce?
Ma première fois. Au piano, en public. En fait, mon premier concert de jazz, c'était à la trompette. Parce que mon père était trompettiste. Et c'est amusant que vous me posiez cette question-là, parce qu'en fait, mon premier concert de jazz, c'était au Jazz Club de Saint-Loup-la-Forêt, dont était directeur André Muller, qui a été quelqu'un de très important dans la création du festival de Marcillac, puisque c'est lui qui, prenant sa retraite, est venu ici et a emmené un petit peu un certain nombre de bons copains pour faire la fête du jazz à Marcillac. Et moi, j'ai commencé dans son jazz club à Saint-Loup-la-Forêt, où j'habite toujours. Et je jouais de la trompette, parce qu'en fait, mes parents voulaient que je fasse du piano classique, parce que mon père était trompettiste, mais faisait du jazz, la variété, mais il voulait que je sois, moi, un musicien sérieux. Et ça n'a pas marché.
Mais alors, le jazz, c'est aussi une affaire d'émotion, je le disais. Vous avez le souvenir de ces émotions de cette première fois?
Ah oui, 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 oui. Non, on ne choisit pas le jazz par hasard, c'est justement parce que ça permet de communiquer autrement, ça permet de se mettre en danger, ça permet d'aller explorer des territoires, même s'ils ont déjà été explorés, même si d'autres ont déjà fait cette musique-là, c'est quelque chose qui permet vraiment de... D'ailleurs, moi qui ai fait beaucoup d'études classiques au piano, le jazz m'a un peu sauvé la vie, entre guillemets, hein, je ne voudrais pas en rajouter, mais de cette manière que j'ai eue d'aller jusqu'au bout d'études classiques où c'était très difficile et où, en fait, de par la compétition la somme de travail qu'il faut fournir, on en oublie un petit peu le pourquoi on fait de la musique. Et le jazz m'a réconcilié avec ça.
Colline Abadi, vous étiez en troisième cette année au collège de Marciac dans cette section jazz. Vous avez fait du classique. Vous considérez comme Hervé Sélin que le jazz vous a sauvé la vie ?
Peut-être pas sauvé la vie, mais...
C'est mon histoire, ça.
C'est vrai qu'il m'a ouvert d'autres portes, parce que le classique, c'est assez structuré. Enfin, je veux pas me fâcher avec les gens du classique, mais c'est vrai que le jazz ouvre de nouvelles portes et permet de s'exprimer autrement, on va dire ça comme ça.
Et comme Hervé Sélin, aujourd'hui, vous vous essayez à la trompette, à la basse électrique et au chant. Oui. À vos côtés, il y a Adèle Wong, également donc, élève cette année, désormais en vacances, en troisième au collège. Vous allez toutes les deux continuer dans des lieux différents, mais au lycée, votre apprentissage, votre expérimentation de la musique jazz. Adèle, on parle de première fois. Il y a eu, je crois, une première fois d'importance pour vous deux. C'était oui. Il y a quelques jours avec Ibrahim Malouf sur la scène du Grand Chapiteau qui est juste à côté de nous.
Oui, c'est ça. On a joué un morceau avec Ibrahim Malouf, on a eu la chance de monter sur cette scène devant 6000 personnes et de jouer avec un très grand trompettiste.
Et vous avez réussi à jouer ou vous trembliez trop ?
Au début, j'avais un peu de mal, c'est vrai, mais après, on est plus à l'aise. Mais bon, ça fait toujours peur. Même à la fin, ça faisait toujours peur.
Et vous avez pris un solo de clarinette puisque c'est votre instrument de prédilection ?
Non. On a tous joué ensemble. C'est justement ça qui a fait la magie du morceau, parce qu'on était tous ensemble avec Ibrahim Malouf.
La vibration, le groove est passé entre vous tous ? Colline ?
Oui. C'était un moment très fort. On était tous très, très paniqués de rentrer sur scène. Et vraiment, c'était vraiment un moment magique, on va dire ça comme ça.
Alors votre première fois, non pas sur la grande scène, Alex Dutil, mais backstage, pour préparer des émissions, pour donner à entendre non seulement la musique, mais aussi le verbe des musiciens de jazz pour France Musique, c'était non pas aux origines du festival en 78, parce que vous couriez après les vaches, pas toujours avec de bonnes intentions à leur égard, du côté de Dax en particulier, c'était au 21e anniversaire de ce festival, vous avez le souvenir ?
Oui, alors je suis venu pas pour France Musique à ce moment-là, pas pour la radio. J'étais à ce moment-là rédacteur en chef du mensuel de Jazzman. Et c'est vrai que pendant 20 ans, je me suis presque forcé à ne pas venir à Marciac. J'avais des choix terribles à faire. Par contre, depuis, effectivement, hier soir, Jim Tomlinson, le saxophoniste et mari de Stacey Kent, rappelait que à la fin du mois, je crois, ils vont fêter leur 23e anniversaire de vie commune. Ben moi, ça va être le 17e anniversaire de vie commune avec Marciac, en tout cas, cette année. Je suis venu à partir de la 21e année. Et non, la radio, c'est plus récent, mais j'ai un souvenir particulièrement fort. Je crois que c'était il y a 3 ou 4 ans, je pense que c'était il y a 3 ans. À cette époque-là, les retransmissions de France Musique s'interrompaient à minuit. Et c'était le soir de la première rencontre dans leur vie de Ahmad Jamal, légende vivante qui nous a encore gratifié d'un concert sublime cette semaine, et de Youssef Latif, disparu depuis, qui était un jeune nonagénaire. Et quand on a 90 ans et qu'on joue du saxophone ténor, on ne joue évidemment pas comme un jeune homme de 20 ans. Il n'y a pas la même fluidité, etc. En tout cas, c'était l'événement attendu cette année-là, mais pas simplement au Festival de Marciac. C'était un événement dans le monde du jazz. La rencontre d'Ahmad Jamal et de Youssef Latif et en public. Et Ahmad Jamal avait fait la première partie de ce concert à partir de 23h. Et on annonce l'arrivée de Youssef Latif. Je le vois arriver là sur l'écran de l'endroit où on est, où on voit ce qui se passe sur la scène. Et il était minuit moins une. Et j'ai dû rendre l'antenne. Et j'ai vécu vraiment un drame. J'en avais des sueurs froides. Il se passait quelque chose. Cette rencontre-là a été sublime. C'est-à-dire, Youssef Latif jouait une note de temps en temps, mais sauf que il y avait une sorte d'essence. Moi, ça m'a rappelé quand Merce Cunningham avait 80 ans et avait des gestes sur la scène qui étaient l'essence de la danse. Il y avait quelque chose de ça dans la présence de Youssef Latif sur scène. Et j'ai été tellement malade, on n'avait pas le droit de rediffuser ce concert, que j'ai supplié Jean-Louis Guillaumont à ce moment-là de nous permettre le lendemain à 20h de livrer aux auditeurs de France Musique cette partie-là du concert. Il a fait des pieds et des mains, lui aussi, pour que ce soit possible. C'est un de mes grands moments ici, Jean-Louis.
Un très beau moment, effectivement.
Il y a en effet de grands moments. Chaque spectateur, parmi notamment ceux qui sont autour de nous à présent, puisque nous sommes en public et en direct de Marciac, ont les leurs propres dans leur cœur et dans leur poche intérieure. Il y a aussi de grandes rencontres. Vous le disiez à l'instant, Alex Dutille, et il y a une rencontre qu'a mise en musique Hervé Célin, qui est donc l'un de nos invités. C'est sur son album Marciac, New York Express. C'était une rencontre à une invitation de Wynton Marsalis. Un extrait d'Entre deux clochers, un morceau donc extrait de l'album Marciac New York Express, signé par Hervé Célin avec un tintet. C'était une création qu'il avait faite à New York à l'invitation de Wynton Marsalis en 2008. Il y a des rencontres transatlantiques, Jean-Louis Guillaumont, nombreuses dans l'histoire de Jazz in Marciac, mais il y a aussi un terroir, un territoire. On est en Midi-Pyrénées, on est dans le Gers, ici à Marciac. On le sait, le jazz européen fait une place très importante depuis longtemps aux musiques traditionnelles. Est-ce que la musique traditionnelle a eu à son mot à dire dans la programmation, dans les échos, dans les notes qu'on entend ici à Marciac, dans le jazz ?
Le jazz a pris racine à Marciac, mais nous sommes efforcés également de donner des prolongements, j'allais dire, à ce que le festival permettait, c'est-à-dire toutes ces rencontres improbables. Et nous avons décidé, dans le cadre de notre projet culturel de territoire, de mettre en forme ces rencontres dans le cadre de jazz et musique traditionnelle, de proposer des stages avec des musiciens de jazz et des musiciens issus donc de la sphère de la musique traditionnelle pour permettre donc aux jeunes de se familiariser, j'allais dire, avec les techniques d'improvisation et de créer un répertoire singulier. Et donc ces sessions ont lieu tout au long de l'année et font l'objet, dans le cadre du festival, d'une restitution. Nous faisons exactement la même chose dans le domaine des harmonies locales, hein, puisqu'il existe dans notre grand sud-ouest des harmonies, il existe une musique traditionnelle de ce type également, et nous rencontrons régulièrement donc des musiciens issus de ces harmonies et leur permettons de se familiariser avec ce monde qu'est le jazz, les invitons sous le chapiteau également pour que ces deux cultures se rencontrent.
Alors c'est l'occasion de rappeler en effet que Jazz in Marciac, ça n'est pas que pendant le festival, même s'il est relativement long, depuis la fin juillet jusqu'au 17 août pour l'édition de cette année, c'est aussi toute l'année cette programmation. Il y a cette longue histoire du jazz depuis 1978 ici à Marciac, depuis un peu plus de 16 ans pour vos venues dans ces lieux, Alex Dutille, avec votre plume de journaliste et votre micro en bandoulière ou en sac à dos, comme c'était le cas hier soir backstage, pour les auditeurs et les auditrices de France Musique. Dans toute cette histoire du jazz qui est faite de courants, de ruptures, de tournants, est-ce que vous avez assisté à la rencontre et peut-être à la friction de cette histoire du jazz ici, à Marciac ?
Friction, non, mais en tout cas, moi, je trouve que ce festival est l'un de ceux qui mettent le mieux en valeur la diversité et le dynamisme de plein de formes de jazz aujourd'hui. J'ai un souvenir particulier de, Jean-Louis s'en souvient aussi, j'imagine, dans l'histoire de John Zorn à Marciac, qui a, pendant quelques années est venu tous les ans dans des formules différentes. Il y a eu une année où il est venu avec Electric Masada, et donc on avait ce répertoire de Masada qui est d'inspiration hébraïque chez Zorn, même si c'est ses propres compositions. Sauf que quand on dit Electric Masada, il y a deux batteries, il y a deux basses, il y a de la guitare électrique, il y a de l'orgue, et il y a la puissance de feu de Zorn lui-même au sax alto. Il y a eu une ouverture de concert avec une violence sonore qui a fait reculer les invités des premiers rangs, un peu désarçonnés et effrayés. Et à ce moment-là, il y a eu une vague de fond, mais un tsunami qui arrivait du fond de la salle. Les jeunes qui étaient au fond, aux places les moins chères, se sont rués devant quand ils ont vu qu'il pouvait y avoir quelques sièges qui se libéraient. Et il y a eu une rencontre comme ça de la modernité et de la tradition, parce que chez Zorn, c'est les deux qui coexistent. Et je pense que le public qui avait un peu reculé sur ce concert-là s'est aperçu quelques minutes après, il avait fait le coup de la provoque, qu'ils pouvaient très bien regagner leur place et qu'il allait se passer quelque chose, et il s'est passé quelque chose.
J'ai bonne mémoire, il avait conclu ce concert d'ailleurs par une leçon de jazz, c'est-à-dire un chorus magnifique. Et je me souviens que les plus sceptiques parmi nous avaient justement apprécié cette belle leçon que John Zorn nous avait donnée. Alors, donc c'est ce que j'appelle la liberté de ton de Jazzine Marciac en termes de programmation.
Alors cette liberté de ton, on l'entendait dans cet extrait de votre album Marciac New York Express, Hervé Sélin, dont on a entendu un extrait de Entre deux clochers il y a un instant. Parlez-nous justement de ce travail de composition pour 10 musiciens, à l'invitation, je le répète, de Wynton Marsalis à l'époque. Il y avait l'idée de marier ou peut-être de faire se rencontrer avec une certaine violence, différentes familles, différentes esthétiques du jazz, celles qui vous nourrissent.
Oui, mais c'est surtout que... D'abord, je voudrais juste faire une précision, c'est que ce groupe-là est né à Marciac avant d'aller à New York, en fait.
C'était
à l'invitation de Jean-Louis que cette création s'est faite pour le 25e anniversaire du festival de Marciac. J'avais vraiment à cœur, étant venu à Marciac depuis maintenant plus de 30 ans, d'offrir quelque chose à Marciac, comme Marciac m'a offert tant d'émotions durant toutes ces années. Et donc Wynton Marsalis, qui était là quand on a fait cette création, m'avait invité pour l'année suivante, et donc ça m'a permis d'étoffer le répertoire. Mais oui, l'histoire des rencontres de musiciens, mais c'est surtout en fait d'essayer justement de pas trop tomber dans le cloisonnement et d'avoir le musicien traditionnel, le musicien bebop, le musicien moderne, les anciens, les nouveaux. Je crois que tout ça, c'est des querelles qui sont assez mal placées. Et finalement, la musique, elle est beaucoup plus universelle que ça. Et en fait, moi, ce Tentet, c'était surtout l'idée, parce que je suis un pianiste assez énergique et avide de liberté. Et j'ai beaucoup joué en trio, j'ai beaucoup joué dans des petites formations. Et j'avais tout simplement envie d'avoir plus de palette sonore de possibilités de palette sonore. Donc en fait, ce Tentet, c'est jamais qu'un trio ou un quartet, mais avec d'autres sons. Et en fait, toute la musique que j'ai écrite pour cet orchestre est basée là-dessus. C'est-à-dire que avant tout, il faut que ça circule, il faut que ça communique, il faut que ça joue. Il n'y a pas de section, il n'y a pas véritablement un travail d'écriture scientifique. Mais le plaisir d'avoir plus de couleurs, plus de palettes, plus de sons, c'était vraiment la démarche avec ce Tentet.
Colline, Adèle, vous qui êtes donc élève dans la section jazz du collège de Marciac, vous avez 15 ans chacune, toutes les deux. Il y a des rencontres donc physiques, vous parliez de celle avec Ibrahim Malouf il y a quelques jours, et il y a aussi des rencontres, j'imagine, peut-être plus spirituelles, en tout cas celles que vous faites dans le cadre de l'enseignement que vous recevez. On parle un peu d'histoire du jazz, il y a des figures qui sont d'importance, dont vous avez peut-être le poster accroché dans votre chambre, Adèle ? Des figures de jazzmen ou de jazzwoman ?
Poster, peut-être pas, mais... effectivement, je pense déjà à Wynton Marsalis, qui est quand même le parrain de ce festival. Donc,
qui a sa statue, ici même, à Marciac.
Donc on le connaît tous dans le collège. Et sinon, je pense aussi à... En tant que chanteuse, Billie Holiday ou Ella Fitzgerald, qui sont deux grandes chanteuses pour moi très importantes dans l'histoire du jazz.
Et en quoi sont-elles si importantes ou plus importantes que d'autres pour vous ? Qu'est-ce que vous avez trouvé chez elles qui vous parle ?
Tout d'abord, leur voix qui est unique et leur personnalité. Quand elles chantent, on sait que c'est elles et en fait que ce sont elles. Et leur histoire aussi, par exemple, Billie Holiday qui s'est battue contre la ségrégation, etc. Donc c'est deux grandes personnalités qui sont très importantes dans l'histoire du jazz. C'est pour ça qu'elles sont importantes.
Elles ont eu des vies douloureuses, avec des instants tragiques. Vous vous attendez, en embrassant, sinon la carrière, du moins les études de jazz, à une vie aussi difficile? Vous vous y préparez? C'est ce que vous cherchez? Vous cherchez la bagarre?
Par la drogue, c'est
tout. On l'imagine peut-être pas, voilà, il y aura la question de la drogue peut-être, mais là on est sous le soleil de Marciac, donc on n'imagine pas que ça puisse être difficile, le jazz.
Non, je sais pas du tout.
Colline, dans votre panthéon personnel?
Je sais pas non plus.
C'est vous partagez l'admiration,
oui,
d'Adèle pour Billy,
oui,
pour Ella?
Ah oui, je suis complètement d'accord, c'est aussi les deux figures que j'admire énormément.
Et voilà. Puisque vous jouez de la trompette, vous jouez aussi de la basse électrique. Il y a des bassistes. On a perdu il y a quelques semaines le grand Charlie Haddon, contrebassiste. Il y a des figures d'instrumentistes aussi qui comptent pour vous.
Bassiste, il y en a quelques-uns, mais je n'écoute pas trop la basse, plutôt trompette. Enfin, Ibrahim Alouf, bon, ça c'est c'est vraiment mon exemple. Et c'est surtout en chant. En chant, j'écoute le plus. Et je pense qu'avec Adèle, on a à peu près les mêmes goûts, et comme Esperanza Spalding par exemple, ou Jimmy Cullum hier, c'était vraiment, j'ai vraiment adoré. Enfin voilà, des personnalités avec un fort caractère plutôt, ça j'aime bien.
Mais alors on l'entend, vous avez toutes les deux déjà du caractère et vous aimez chanter, et vous avez accepté notre invitation de chanter quelque chose toutes les deux. Alors on vous écoute,
oui,
dans la grande table sur France Culture.
Alors, c'est une chanson qu'on a appris durant notre stage que nous avons fait cette semaine, parce qu'on a l'occasion de participer à un stage au collège, quand on est en troisième. Donc, ce n'est pas une chanson, ce n'est pas du jazz.
C'est dérivé.
C'est plutôt spirituel.
On parlait de musique traditionnelle, c'est le folklore traditionnel, notamment écrit par les Américains. Et c'est Kumbaya.
C'est quoi la première note?
Kumbaya, my lord, Kumbaya, Kumbaya, my lord, Kumbaya, Kumbaya.
Colline Abadi et Adèle Wong nous interprétaient donc Kumbaya, ici en direct, en public, de Jazz in Marciac. Il y a une dimension spirituelle dans le jazz, il y a une dimension spirituelle à Marciac, il y a ces deux clochers qu'on voit à l'horizon, mais il y a aussi une dimension politique, et vous êtes bien placé pour le savoir, Jean-Louis Guillaumont, vous, le président du festival, puisque vous avez été élu maire de Marciac, et vous l'êtes depuis 1995. En quoi le jazz, on ne s'y attend pas vraiment, peut-il être un argument politique pour être élu?
Alors, ce n'est pas vraiment le meilleur argument politique. Vous savez, nous perturbons, mes amis du conseil d'administration de Jazz in Marciac et moi-même, la vie de cette population, 3 semaines dans l'année.
En particulier les matchs de rugby, puisque le chapiteau est sur le terrain de rugby.
Mais ce n'est pas la seule perturbation, il en est d'autres. Et ils vivent pendant 21 jours donc, aux accents de cette musique, avec toutes les nuisances qui peuvent exister. Et il existe, vous le savez, il existait. Préalablement à la précédente consultation, il existait donc un mode de vote, le panachage, qui permettait de se débarrasser très facilement de ceux qu'on ne souhaitait pas voir figurer dans une assemblée communale. Donc les Marciacais m'ont reconduit au fil des années dans mes fonctions. J'en ai déduit qu'ils aimaient effectivement le jazz et probablement aussi le développement inattendu auquel cette musique avait donné naissance sur ce territoire.
Alors c'est une musique éminemment politique, qui a été une musique de lutte. Vous en parliez, Adèle et Colline, à travers la lutte contre la ségrégation pour les droits civiques des Noirs américains également. C'est toujours un discours qui s'adresse à l'autre et qui donc a une dimension politique. Hervé Célin, ce soir, vous allez vous adresser à toutes les spectatrices, les spectateurs de Marciac sur la scène de la Strada. En quoi y a-t-il une part politique dans le récital, les élucubrations, les thèmes et variations, pour reprendre le titre de votre album, dans votre programme de ce soir ?
C'est pas facile ce que vous me demandez là. La politique, non, moi, enfin bon, c'est quelque chose qui m'est assez étranger. Bon, je reste concerné par ce qui se passe autour de moi, mais l'engagement, il est par rapport à la musique surtout, et par rapport au fait que si y a un engagement humain par rapport à un public qui va venir écouter des histoires, et ça, c'est l'engagement du musicien. La politique, c'est peut-être justement de rassembler peut-être les gens par la musique, par le cœur que l'on met là-dedans, par l'improvisation, qui est une manière aussi, que ce soit le jazz ou la musique classique, mais de créer un événement unique au moment où on s'adresse à son public. J'entendais tout à l'heure une jeune fille qui parlait de parfois l'austérité de la musique classique. Le problème, il est peut-être là, c'est-à-dire que la musique, c'est quelque chose de plus universel. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Et finalement, l'improvisation, elle peut être aussi dans une forme d'interprétation. Et même si on rejoue des œuvres qui ont déjà été jouées des milliers de fois, l'interprétation, comme ce soir, peut-être à la Strada, sera différente en fonction de l'humeur du moment, du public, de la réaction. Et ça peut être un message. Je ne dirais pas forcément un message politique, mais un message d'humanité, avec beaucoup d'humilité, pour essayer justement de continuer à communiquer avec les gens par la musique et par le jazz, qui était évidemment un moyen de communication extraordinaire.
Mais en tant qu'improvisateur, on s'attend évidemment à des surprises. Cependant, c'est très énigmatique, l'annonce de votre récital, c'est Hervé Sélin solo. Qu'est-ce qu'on peut, à l'échon un peu, les auditrices, les auditeurs et les spectateurs qui sont là autour de nous, qu'est-ce qu'on peut trouver ce soir dans votre spectacle ?
C'est-à-dire que j'ai pensé aussi à ce à quoi était consacrée la soirée, puisqu'après il y aura un hommage à Claude Nougaro. Donc Claude Nougaro, c'était un fort en thème. Moi, on m'a souvent mis cette étiquette aussi, donc j'aime bien aller chercher des thématiques un peu partout. Donc je pense que je vais voyager un petit peu entre Thelonious Monk, Debussy, Chopin, le jazz traditionnel, et essayer de tout en essayant de donner un petit peu une vision personnelle de tous ces répertoires, essayer justement d'être près de ces choses qui sont des thèmes, et puis près de la chanson aussi, parce que je reste très attaché au fait de chanter la musique. Quelle qu'elle soit, une chanson, c'est pas forcément Au clair de la lune ou La la la.
Vous entendez gémir comme Keith Jarrett sur votre piano ?
Je pense pas, non. Enfin, peut-être un peu si jamais je m'excite tout seul, mais.
Vous serez pas seul.
Non, mais il n'y a pas besoin de gémir. Hein. Bon, Keith Jarrett fait les choses comme il les sent. Chacun voit midi à sa porte.
Alors il y a l'improvisation, il y a aussi toute la difficulté de cette musique, parce que c'est aussi un travail ardu de tous les jours pour apprendre à dompter son instrument et à explorer de nouveaux territoires. Colline Adèle, qui est donc élève du collège, qui étiez élève du collège puisque vous êtes passé au lycée à la fin de l'année. Cet enseignement, cette section de jazz, ces ateliers d'initiation à la musique de jazz, les AIMJ du collège de Marciac, sont présentés comme quelque chose de ludique. Qu'est-ce qu'il y a de ludique dans l'enseignement que vous avez reçu, Colline ?
Mais c'est vrai que c'est assez ludique parce qu'on ne sait pas que travail acharné et on monte les morceaux et après on enchaîne. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à faire des exercices pour justement nous améliorer et je pense que c'est là-dedans qu'on peut mettre le ludique en quelque sorte. Vu que c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup et c'est vraiment une expérience vraiment géniale. Enfin, moi, je ne suis vraiment pas déçue d'être passée par Marciac.
Adèle, vous avez des souvenirs de rigolade, de jeux dans le cadre du collège, en cours, c'est pas si courant.
Avec nos professeurs de musique, c'est vrai qu'on est assez... peut-être pas proche, mais... Mais comme le jazz est une musique de partage, on improvise, on invite nos professeurs à improviser avec nous sur nos morceaux, comme on fait des échanges avec eux pour qu'on soit ensemble. Donc oui, il nous arrive de rigoler sur certaines choses, sur certains morceaux, parce que ça ne s'est pas passé comme ça devrait, comme ça aurait dû être.
Dans ce que vous dites, on entend que vous invitez vos profs, ça veut dire que d'ici quelques années, c'est pas Ibrahim Malouf qui vous invitera sur la scène du Grand Chapiteau, mais l'inverse?
Je sais pas du tout, peut-être.
Ça pouvait être vrai.
Ah, Jean-Louis Guillaume. On a vécu un certain temps à leur côté, enfin pas ces demoiselles, mais toutes celles qui les ont précédées, toutes celles et ceux. Je voudrais dire que l'approche qui est développée au sein des ateliers d'initiation à la musique de jazz est quand même très singulière, notamment parce que elle favorise la prise de risque, c'est-à-dire que chacun d'entre eux n'hésite pas devant ses camarades à prendre des risques, à improviser, à également respecter, écouter l'autre, et donc revendiquer de la sorte une sorte de droit à l'erreur. Vous le savez, dans l'enseignement de nos différentes disciplines au sein de nos établissements, il n'y a pas cette reconnaissance du droit à l'erreur. Et je crois que ce qui fait vraiment l'originalité de la démarche qui a été mise en œuvre par les enseignants au sein du collège, c'est d'aller au-devant, j'allais dire, de ces élèves en leur disant « Ayez confiance en vous, vous avez une personnalité, vous pouvez développer en toute liberté votre créativité. » Et ça, c'est très nouveau au sein du monde de l'éducation nationale et c'est probablement ce qu'elles vivent. Et je les regarde toujours avec un regard d'envie parce que je me dis que nous aurions pu connaître les générations antérieures, je vais dire, ce mode de fonctionnement qui en fait des personnes, de belles personnalités. Ça alors, transparaît à l'antenne.
Le droit à l'erreur, il est donc le propre de la pédagogie de la section jazz du Collège de Marsiac. Il est peut-être aussi le propre du jazz. Je crois que c'est Monk qui disait que wrong is right. L'erreur, c'est on est dans le vrai quand on est dans l'erreur. Je tiens à vous remercier toutes et tous. Merci Jean-Louis Guillaumont. Donc ce festival que vous présidez, Jazz in Marsiac, il se tient bien sûr jusqu'au 17 août, ici même où nous nous trouvons. Merci Adèle Wong et Colline Abadi. Merci encore Hervé Célin qui jouait ce soir en solo à la Strada ici à Jazz in Marsiac. Et tout de suite, 13h16, eh bien, c'est l'heure de retrouver la chronique d'Aude Lavigne à première vue. Aude Lavigne qui s'entretient aujourd'hui avec Claire Trottignon, homonyme d'un jazzman, mais elle pratique le dessin et le collage.
Claire Trottignon est une jeune artiste française à travers de vastes installations, des séries de dessins, des collages, des photographies. Elle ne cesse de mettre en crise le présent. Elle construit des paysages qui nous regardent en flottant. Au téléphone, Claire Trottignon répond à notre question. Quelle œuvre est à l'origine de son goût, de sa vocation, de sa sensibilité pour l'art contemporain? Et à première vue, Claire Trottignon, vous nous répondez.
En fait, quand vous m'avez posé la question, je me suis dit qu'en premier lieu, je crois qu'il y a ma ville, Rochefort, qui est une ville 17e, qui est construite sur un schéma quadrillé. Et il y a aussi en fait, les cartes marines que j'ai dû apprendre très tôt pour partir en mer. Et en fait, ces codes m'ont amené à être sensible à la représentation de l'espace et du temps du travail de Stanley Brown, qui est un artiste néerlandais du mouvement conceptuel. Et les œuvres de Brown, alors principalement This Way Brown, sont des petits recueils de croquis cartographiques. En fait, il demandait dans la rue à des passants de lui donner son chemin et de représenter un petit plan, un petit croquis qui l'amènerait à ce chemin. Ce qui crée en fait une sorte de petit cadastre intime et une approche de l'espace déterritorialisé.
Donc en fait, dans ces dessins, on avance dans un espace qui n'existe pas.
Tout à fait. Et les dessins sont complètement abstraits. Il s'agit vraiment de petits traits, de petits points, d'un lexique tout à fait abstrait.
Et qu'est-ce qui vous plaît ?
Le fait que ce soit complètement à l'opposé de la cartographie et justement d'un lexique classique de représentation de l'espace.
En découvrant ce travail, vous avez senti que vous pourriez rêver à l'infini, c'est ça, Claire Trottignon ?
Oui, et envisager l'espace et donc le temps d'une manière différente, avec un vrai questionnement artistique et non juste placer un point dans un espace et se placer soi-même dans l'espace.
C'était donc sortir de l'espace quadrillé de votre ville natale, Rochefort.
Tout à fait, mais il faut un premier point de départ pour prendre conscience de l'espace, et Rochefort m'a permis de prendre conscience d'un espace, et à partir de ceci, ça permet d'envisager le territoire d'une autre manière.
Est-ce qu'on peut rebondir, Claire Trottignon, Rochefort, ses cartes imaginaires? Un troisième saut dans votre regard?
Oui, il y a aussi, dans une approche différente, le travail de Julie Meretout, qui est une artiste d'origine éthiopienne, qui est peintre, et elle a créé des immenses tableaux cartographiques. Alors là, vraiment, c'est un paysage tourbillonnant, abstrait, toujours dans un lexique de l'abstraction, mais dynamique, coloré, et aussi dans la transparence. Et c'est encore une autre approche picturale, cette fois, qui donne aussi une nouvelle conscience de l'espace et toujours une certaine temporalité différente.
C'était à première vue la chronique d'Aude Lavigne.
Bonsoir Marciac ! Ça va ?
Comme dans chaque soirée ici à Jazz in Marciac, comme hier soir, vous l'entendez, c'était Jamie Cullum qui montait sur scène sous le grand chapiteau. Il y a dans la grande table d'été une deuxième partie. C'est l'heure où déboulent des stars, des monstres sacrés. Et me voilà face à deux archanges du jazz, auréolés de cuivre et de nacre, le trompettiste Wynton Marsalis et l'accordéoniste Richard Galliano. Bonjour Richard Galliano.
Bonjour.
Fruit, extrait de la rencontre, de l'enregistrement de la rencontre entre Richard Galliano, accordéoniste, et Wynton Marsalis, trompettiste, ici à Marciac. C'est un enregistrement qui date de 2008. Il y a des strange fruits, des fruits étranges, ici dans cette commune du Gers où nous sommes en direct et en public. Il y a les fruits de la vigne qui mûrissent sur les cèpes qu'on a sous les yeux. Il y a les fruits du jazz, des fruits peut-être défendus, Richard Galliano, qui ont notamment été apportés par les soldats américains au cours de cette Première Guerre mondiale dont nous commémorons le centenaire. Quelle est votre relation à vous, qui n'êtes pas centenaire, disons-le, avec ces origines du jazz et peut-être cette musique de soldats?
Oui, en fait, il est certain que le jazz est une musique qui est né aux États-Unis, donc on connaît l'histoire entre les Noirs américains, les esclaves et le blues à la base. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'il y ait cette essence dans quoi qu'on joue, de n'importe quelle forme de jazz. Pour moi, il faut toujours qu'il y ait cette dimension de blues, cette dimension et de swing aussi. Et c'est certain que, à l'époque de la guerre, bien sûr, Internet n'existait pas. Aujourd'hui, on a beaucoup de facilité, peut-être trop, à aller piocher. C'est intéressant, bien sûr, mais quand on a trop de choix, finalement, peut-être qu'on devient plus paresseux. Et la découverte à l'époque, j'imagine les 78 tours de jazz, et c'était des choses rares. Et le choc qu'ont eu les musiciens européens, les musiciens français à l'écoute de cette musique. Ça devait être quelque chose de fantastique. Et d'ailleurs, moi, lorsque j'écoute Gus Viseur, par exemple, je me rends compte dans son jeu où Tony Murena, c'était bon, les accordonistes d'époque.
Et français.
Français, oui, oui.
Pas américain.
Et donc, on sent qu'ils écoutaient Fats Waller, qu'ils écoutaient les big bands, Glenn Miller et tout ça, parce que leur jeu est vraiment imbibé de cette... Lorsqu'ils jouent la musique de jazz de l'époque. Après, il y a une autre forme de jazz, c'est le musette swing. Parce que finalement, ces trois vraiment styles de musique qu'on a mis quelquefois un peu en, pas en compétition, mais un peu en, comme ça,
en rivalité.
En rivalité. Et on s'aperçoit qu'au début du siècle dernier, aux États-Unis, bien sûr, il y a eu le jazz qui est né. En Argentine, c'était le tango, un peu dans les mêmes lieux, un peu les bas-fonds. Les
lieux interlopes.
Voilà, voilà. Et le musette avec Joe Privat, Rue de Lappe. Et c'est, pour moi, enfin, beaucoup de musiciens, c'est un peu la même chose. Il faut jouer un peu de la même manière. On joue ces musiques, justement, chaque fois d'une manière différente. C'est ce que m'avait dit, justement, Ron Carter. Il m'avait dit, la difficulté avec le jazz, c'est que tous les soirs, on doit jouer d'une manière différente. Et c'est bon, pour le classique, c'est pareil, parce qu'il n'y a pas de frontière entre les musiques. Hein.
Ron Carter, donc contrebassiste, vous êtes accordéoniste, Richard Galliano. En France, le jazz, c'est une musique qui doit donc beaucoup aux Noirs américains. Vous parlez aussi de cette tradition d'accordéonistes, en particulier français, qui ont revisité cet héritage. Il y a aussi celui des gitans qui se sont emparés de cette musique. Qu'est-ce que vous devez à ces gitans?
Bien sûr, la plupart des valses musettes classiques swing ont été écrites en collaboration avec des musiciens gypsy, manouches. Moi-même, mon premier disque, j'appelais entre guillemets New Musette, je l'ai enregistré avec Birelli Lagraine, qui apporte vraiment une couleur authentique. C'est un ingrédient vraiment très, très, très personnel de notre jazz français. Je veux dire, peut-être qu'un des plus grands jazzmen ou le plus grand jazzmen, c'est certainement Django Reinhardt, du moins le plus original par rapport à la musique américaine. Parce que bon, c'est sûr que lorsqu'on copie, on est toujours un peu en dessous ou à côté de la plaque, quoi.
Alors, on parle de jazzmen disparus, mais il y a quelques grands jazzmen autour de la grande table d'été de France Culture, avec vous Richard Galliano, avec vous Hervé Célin qui nous avait fait l'honneur et le bonheur de rester, et Wynton Marsalis qui vient de s'installer autour de cette grande table. Bonjour Wynton.
All right, brother.
Merci beaucoup d'être avec nous. Nous parlions à l'instant avec Richard Galliano de cette histoire au long cours du jazz, et en particulier du jazz en France qui a franchi l'Atlantique avec en particulier les soldats de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous, je vous relance cette question, qu'est-ce que vous devez à cette musique jazz des origines, à cette musique de soldats? On sait que vous avez joué avec les Jazz Messengers d'Art Blakey qui sont célèbres notamment pour leur blues march, un brin martial.
Oh, I have to translate now.
C'est Hervé Célin qui se prête à la traduction.
No, they were speaking about the heritage of the birth of jazz in America. What's your relationship with this, especially regarding that we are celebrating the 100th anniversary of the First World War? So that was a very important thing, especially when the American, they came to France and we discovered American jazz. So what's your relationship with this birth of the real old jazz?
Well, I'm from New Orleans, and my father is a teacher and a piano player, like your father is a trumpet player. So I grew up with the music and the heritage of it. I didn't understand it as a kid, but I come from the roots of the music.
Oui, ce qu'il dit, c'est que lui, il vient des origines du jazz, puisqu'il vient de la Nouvelle-Orléans et que son père était professeur de musique, était pianiste. Et que même s'il ne comprenait pas tellement un peu la portée de cette musique-là, il est né là-dedans, il a baigné là-dedans, et quelque part, il ne s'est pas forcément posé la question, ni analysé quoi que ce soit, puisque il a ça dans le sang, quoi.
At the beginning of the 20th century, there were many inventions that came from America. Mainly recording, airplane, many, many things. France, America, we had a certain type of relationship. Film, photography, France, America, France, America. We have a... And when James Reese Europe's group came here and they started to hear the syncopated rhythms played in the context of march, also with the influence of New Orleans, was French band system, French and Italian. So the class of Creoles play French music had a French opera in New Orleans. Mm. So there were many, many relationships. In Havana also, there was another, but it was Italian. Havana was Cuba, Italian opera, New Orleans, French opera.
Oui. Il dit en fait qu'il y a une relation très forte entre la France et les États-Unis, mais parce que d'abord, c'était deux pays au début du XXe siècle qui étaient très créatifs par le cinéma, la photographie, la musique et tout ça. Mais surtout, la Nouvelle-Orléans avait ses origines françaises et il y avait un opéra français à la Nouvelle-Orléans. Et c'est ce mélange avec la musique aussi des orchestres de marche, les orchestres militaires, était quelque chose qui a donné la naissance au jazz. Et la première fois que les orchestres de jazz américains sont venus en France, ce qu'ils ont amené, c'était ce côté syncopé de la musique que l'on ne connaissait pas, bien sûr. Mais ça venait aussi d'une énorme tradition française qui venait de la Nouvelle-Orléans, parce qu'il y avait les Français à la Nouvelle-Orléans, comme il y avait les Italiens à Cuba, par exemple. Donc, en fait, l'Europe était très présente et toutes ces choses sont nées d'une culture commune.
On l'entend dans votre discours, Wynton Marsalis, le jazz est affaire d'aller-retour à travers l'Atlantique. Aujourd'hui, nous sommes à Marsiac, en direct, en public. Vous avez, à votre tour, traversé l'Atlantique, et ce n'est pas la première fois. Vous êtes le parrain de ce Jazz in Marsiac, de ce festival. Vous avez même votre statue, on le disait tout à l'heure, dans le village. Mais pour vous qui avez enregistré un album intitulé The Marsiac Suite, quelle influence Marsiac, son climat, ses couleurs, peut-être, ont-ils sur vos compositions?
What influence Marsiac had on your own music, on your own life, since you came here, because you write that Marsiac suite? And
a great influence, just because I was able to come to a place where the spirit of jazz was. And the jazz is international language. When Richard and I play, or when you and I play, it's like any other music that is international. We make a big deal about the birth of jazz because it has black people in it. But when you think about the world, we're sharing a microphone. We don't wonder who came up with a microphone, or who invented shirts, or we don't obsess over. We read literature. We have a shared cultural heritage around the world. So when I came here, it was like I could experience with the education and everything Jean-Louis was setting up, and it just was a great feeling. It's kind of country, the communal feeling, what I was used to, and the people were so warm and inviting and about the music, so I wanted to definitely be a part of it.
Oui, il dit que c'est pas un choc particulier du fait d'amener la musique américaine ou le jazz né en Amérique, d'apporter ça en France, mais parce qu'en fait le jazz est une sorte de musique universelle finalement, et ce qu'il a trouvé ici, c'est une chaleur humaine, c'est des gens qui aiment cette musique et avec qui il s'est senti bien, et aussi tout le projet aussi d'éducation qui est porté par Jean-Louis Guillaumont et le Collège de Marsillac, c'est quelque chose qui lui a parlé, mais il n'a pas senti qu'il franchissait vraiment une grande frontière ou un mur infranchissable pour lui. Le jazz qu'il joue avec Richard Galliano, qu'il joue avec moi ou qu'il joue avec d'autres musiciens sur la planète, c'est une espèce de langage universel qui fait qu'il se sent bien ici, quoi. Parce que bon, Marsiac, évidemment, on sait de quoi on parle.
Et vous êtes nombreux à vous sentir bien et à revenir d'année en année à l'invitation de Jean-Louis Guillaumont à Marsiac. Marsiac, Richard Galliano, c'est aussi un peu votre jardin, mais votre festival, lui, se tient à Tulle, patrie de l'accordéon français. La fabrique, l'usine d'accordéon de Tulle vient d'être sauvée, notamment par la donation d'un jeune footballeur de l'équipe de France. On ne l'a peut-être pas assez dit et entendu, ce qui est assez étonnant quand on imagine que ces jeunes gens n'écoutent que du hip-hop. Est-ce que c'est le signe que le jazz a bien des choses à dire à la jeunesse?
Oui, en fait, vous parliez de Tulle, mais c'est une vieille histoire. Ça remonte à 20 ans, j'avais créé ce festival, hein. Et en fait, la chose importante pour la jeunesse, c'est que la jeunesse écoute la musique en général. Il faut peut-être arrêter de mettre des frontières entre des styles musicaux. On peut écouter de la chanson française, du tango, du jazz, la musique classique, la musique cubaine, enfin toutes les bonnes musiques. Et c'est la même chose pour les étudiants. J'entendais parler donc des deux jeunes filles tout à l'heure qui parlaient beaucoup de jazz, d'improvisation, tout ça. Mais voilà, je veux dire, pendant les études, ça serait une bonne chose de s'intéresser, par exemple, aux mélodies de Gabriel Fauré, de chanter des chansons françaises, d'écouter Barbara, même de chanter, pourquoi pas, du tango ou des choses cubaines, pour élargir, parce que dans tous les styles, finalement, on retrouve les mêmes valeurs. Moi, je ne vois pas de différence entre, je parlais de Barbara, mais le feeling de Barbara et de Miles Davis ou Wynton Marsalis. Ou, voilà, tout ça, c'est, pour moi, ce sont des artistes qui sont de la même famille, quoi, c'est ça.
On parle de pédagogie, de transmission. Hervé Célin, vous êtes non seulement pianiste et vous jouerez en solo ce soir à la Strada, mais vous êtes aussi professeur, enseignant dans le cadre de la section jazz du Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris. Vous avez un peu la crème des musiciens et vous avez aussi l'expérience de ce dont parlait Richard Galliano à l'instant, c'est-à-dire d'étudiants qui viennent non seulement de tous les pays du monde, mais aussi de toutes les cultures musicales pour se tourner vers le jazz.
La plupart qui se destinent au jazz ont fait ce choix assez tôt, en fait. Ils viennent tous d'une formation classique assez solide et décident de faire du jazz, mais au sens très large, parce que le jazz, depuis peut-être maintenant une bonne trentaine, quarantaine d'années, est devenu une espèce de monde de fusion musicale, mais aussi un monde en fusion lui-même, ce qui est passionnant, mais ce qui n'est pas toujours facile pour prendre des décisions et décider un peu de ce que l'on veut faire. Mais c'est des musiciens qui sont de plus en plus jeunes, qui ont beaucoup de talent, beaucoup de créativité, et qui sont prêts à se mettre en danger et à aller au fond de quelque chose. Et ça, évidemment, c'est passionnant. Il y a vraiment un creuset extraordinaire de jeunes talents, de jeunes musiciens qui représentent peut-être justement quelque chose de très, très positif et de très encourageant pour l'avenir de nos musiques, quelque part. Parce qu'on a un dialogue toujours très négatif par rapport à l'époque que l'on vit, la crise, ceci, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, mais on a des jeunes musiciens qui ont vraiment du talent, qui sont très très forts au niveau possibilités et qui représentent vraiment beaucoup d'espoir pour donc il faut vraiment aller dans ce sens-là. Et autre chose que je voudrais dire, c'est que, pour rejoindre ce que disait Richard, c'est que toutes les musiques viennent de la tradition orale. Que ce soit la musique classique, que ce soit le tango, que ce soit le jazz, et il faut ramener la musique à ce sentiment. Alors la musique classique, c'était il y a beaucoup plus longtemps, hein. C'était en Égypte, en Grèce ou je ne sais où, je ne suis pas musicologue, mais c'est très important parce que, encore une fois, et on parlait des deux jeunes filles tout à l'heure, si on recommence à faire des séparations et un mur et à ériger cette espèce de mur avec des barbelés, avec la musique classique qui est une espèce de truc austère et qui fait peur à tout le monde, c'est pas possible. Il faut changer ça parce que la musique, c'est autre chose que ça, que ce soit Mozart, Astor Piazzolla ou Duke Ellington ou Miles Davis ou Ornette Coleman. Il faut élargir les choses comme ça.
Précisément, je vous propose, chères auditrices, chers auditeurs de la grande table, d'écouter Astor Piazzolla, interprété par Richard Galliano. Richard Galliano en solo dans une interprétation d'une chanson signée Astor Piazzolla. Vous jouerez ce soir en duo avec Wynton Marsalis, avec qui vous êtes présent autour de cette grande table en direct et en public de Marsiac. À l'instant, Hervé Sélin nous parlait de la dimension orale, des racines orales de toute la musique et du jazz en particulier. Parlez-nous de cette chanson.
Justement, là, oui, cette chanson s'appelle Chickiling de Batching. Donc, c'est l'histoire assez dramatique de deux poulbeaux de Buenos Aires. Et assez tragique d'ailleurs. Et l'importance des paroles dans la chanson, bien sûr, mais dans la musique en général. Moi, par exemple, lorsque j'écris, je cherche des thèmes. Très souvent, si j'ai un texte ou un poème, ça m'aide beaucoup, ça m'inspire beaucoup. Voilà, l'image de Chet Baker, par exemple, qui chantait aussi tous les standards et qui... Et on n'improvise pas de la même manière suivant l'histoire du standard qu'on joue, quoi, hein, qu'on va jouer, c'est ça.
On parle de la dimension orale. Wynton Marsalis, vous êtes une légende du jazz. Je le dis, je le répète, il y a votre statue à venir admirer ici devant laquelle se prosterner à Marsiac, mais vous n'êtes pas un monument monolithique. Votre répertoire, votre discours ont toujours été en constante évolution. Aujourd'hui, vous qui définissez l'improvisation comme une rhétorique, comme un art du discours, qu'avez-vous envie de raconter ?
Oh, Wynton, you're a legend. You have your statue here in Marsiac. And today, what's your wish about what you would like to tell the people with music in the today?
I think that for me, the most important thing is a thing that's in our music. If we take the fundamentals of jazz, first improvisation, which is that we all have individuality and the freedom to express ourselves. So that's first.
La première chose, c'est de les racines de cette musique, les racines du jazz, mais après, que chacun a son individualité. Et c'est important de laisser chacun pouvoir s'exprimer et raconter sa propre histoire à travers les fondamentaux du jazz, mais ça peut être aussi le tango ou autre chose. Mais c'est important de ne pas oublier la profondeur de l'humain, quoi.
But we have to express ourselves in a framework. Like, I cannot speak French, so I have to speak through you because the framework is not... It's laid out, but because I don't understand the framework, I don't have the freedom to express myself in that language. And music is the same way. So we have, in that framework, the constitution of that framework is many times more important than your freedom. Because if you don't have the framework, you cannot express freely. So that aspect of our music is called swing. And that is how we choose to relate to each other and what format do we pick to communicate with each other.
Oui, c'est important de communiquer, que l'individu puisse communiquer, mais pour cela, il faut qu'il y ait un langage. Et le langage, il faut qu'il soit totalement assimilé. Un cadre, c'est plus strict encore que le langage. Et en l'occurrence, là, le langage, c'est le jazz, et une des composantes essentielles du jazz, c'est le swing. Et ça permet aussi de communiquer à la fois avec les gens à qui on s'adresse, mais aussi avec les musiciens avec qui on joue. Et ça, c'est très important, à la fois donc, le cadre et le langage. Mais c'est à la fois donc une sorte de discipline terrible, mais qui doit servir quelque chose de beaucoup plus généreux.
Right, and that's the opposite of the freedom. So that's why in the West we have a problem holding two opposite thoughts at once. So you're free, but if in order for you, for Richard to be free, for us to be free together, I can't be as free. We have to negotiate. So then also there's the blues, and the blues recognizes just the fundamental tragedy of existence, which we're going to die, and there's going to be much loss, and it teaches us to be optimistic in the face of the adversity.
Oui, alors ce qui est important, je disais, il y a deux choses qui peuvent entrer en conflit, c'est justement le respect du langage, le respect du cadre et la liberté, puisque l'interprète a besoin de cette liberté. Donc c'est du gros travail du musicien d'arriver à composer avec cette espèce de guerre qu'il peut y avoir entre la liberté absolue et puis quand même le respect du langage et du cadre. Et puis bon, ce dont il parle aussi, qui est absolument fondamental dans cette musique, c'est le blues.
Richard Galliano.
Oui, dernièrement, j'entendais Annie Dupéré parler, enfin, de théâtre, et elle parlait de rigueur et désinvolture. Et c'est vraiment les deux mots qui me... enfin, qui je trouve les plus importants, parce que bien sûr, il faut préparer, par exemple, le concert qu'on va donner ce soir, on a répété hier matin et tout ça, pour qu'il y ait la rigueur de la mise en place, de savoir vraiment ce qu'on va jouer. Mais après, il faut cette désinvolture pour être libre et pour justement laisser aller toute l'inspiration. Et une autre chose, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Wynton Marsalis et sa formation aussi. Les musiciens sont magnifiques, c'est vraiment une famille. Hier matin, cette répétition, c'était vraiment un moment magique. Et je dis ça vraiment d'une manière vraiment spontanée. Et ce que j'ai remarqué, c'est par exemple Ali Jackson, le batteur qui...
Ami d'enfance.
Voilà, lorsqu'il joue cette musique, voilà, il n'a pas peur de jouer d'une simplicité vraiment basique et toujours, non pas à la recherche du swing, parce que le swing, il est en lui, on le sent, mais de ne pas avoir peur de jouer d'une manière lisible, claire. Et ce swing, lorsqu'ils ont joué en trio, un peu dans le style de Errol Garner, voilà, un musicien qu'on oublie un peu, peut-être que les nouvelles générations oublient un peu, mais moi j'étais aux anges, vraiment. Voilà. Et une dernière chose aussi, et que la magie de la musique, c'est, bon, moi je ne parle pas anglais, je comprends un peu. Wynton, vous avez vu qu'il ne parle pas français. Et il y a un courant qui passe magnifique. Et ça, c'est, bah, chaque fois, je suis vraiment... C'est le pouvoir de la musique qui passe par-dessus toutes les politiques, tout ce qu'on peut. Le pouvoir de cette musique, du swing et de l'émotion. Voilà, on n'a pas besoin de parler la même langue. Et on laisse parler le cœur et ça marche.
Wynton Marsalis, à l'instant, Richard Galliano parle de votre travail de retour à la simplicité, à l'épure, avec vos musiciens et avec Richard. Donc ce soir, pour le public, hier matin, c'était entre vous pour les Happy Few. Ce soir, donc, pour le public de la grande scène du Grand Chapiteau de Marsiac, dans votre rencontre de Billie Holiday à Edith Piaf, c'est le titre de votre spectacle. Qu'est-ce que vous avez cherché, qu'est-ce que vous avez trouvé également de cette simplicité, de ce qui fait l'os, peut-être le nerf, de l'art, de la musique de ces deux chanteuses?
So, Richard was speaking about your rehearsal yesterday morning, and he was very impressed about the simplicity and the evidence of the playing of your musician. Tonight you're going to perform the program about Edith Piaf and Billie Holiday. What do you think you can find in those two singers about simplicity, about this very simple thing in music or in attitude?
First, I want to say that for us to play with him is easy, because he's so great reflexes and just such a great musician. So first, for us, it's an honor. And for me, it's been fortunate to just be in the presence of masters. So the mastery of him playing his instrument, not even playing, just he make the... It, when the instrument breathe, he had a breath that everything is musical. So,
oui, c'est ce que disait Richard, en fait, c'est que bon, Richard parle pas anglais, Wynton parle pas français, mais
Hervé Célin qui veut bien faire la traduction, oui.
Me trouver au milieu
des deux, l'instrument de ces deux musiciens.
Mais c'est absolument magique, et Wynton disait qu'il admire énormément Richard, parce que de toute façon, dès qu'il joue, dès qu'il fait de la musique, ou même déjà dès qu'il met son instrument en vibration, ou dès qu'il respire, la musique est là, et donc la communication et le contact est établi.
There is a challenge, because there's a form and there's difficulty and there's logic and there are many things that are very complex that go on when Richard is playing. It's so much humor and wit and intelligence and form and logic and technical skill. So for the musicians, many of my musicians grew up in a family of music. So they, of course, love and have the type of respect that makes it simple. It could be very complicated.
C'est très complexe, en fait, parce que ça peut être très, très simple,
mais ça peut être très compliqué aussi, parce qu'en fait, on parle de musiciens d'un talent inouï, que ce soit Wynton, Richard ou les musiciens qui les accompagnent, Ali Jackson, mais à partir du moment où ces musiciens ressentent que le musicien en face connaît tous les codes et connaît toute la complexité de la musique qu'ils vont jouer et qu'ils se sentent en confiance, c'est là qu'ils peuvent accéder à cette simplicité parce que l'essentiel est en place et on n'a plus besoin d'en parler. C'est là que ça devient très très compliqué et à la fois très simple parce que du coup la communication devient facile et totalement universelle encore une fois.
And also that Edith Piaf and Billie Holiday both have shaman. They have a shamanistic kind of poetic overview of the world that allow them to translate the aspirations of many people. So when they sing, they in their sound is many the aspirations and the feelings of many people.
Et oui, en plus, bon, quand il parle du répertoire, donc à propos de Billie Holiday et Edith Piaf, ce sont des femmes qui, au-delà d'être des chanteuses, sont des femmes qui portaient un message au niveau humain et qu'elles avaient un karma, je crois, on peut dire, très fort et qu'elles portaient vraiment autre chose que le simple fait d'être chanteuse. Et du coup, ça élève énormément le parce qu'elles portaient l'histoire d'un peuple, quelque part. Billie Holiday, l'histoire d'un peuple noir. Edith Piaf, aussi une certaine souffrance d'un peuple, d'un côté populaire peut-être, européen, français. Donc c'est des choses qui interpellent et qui font qu'on trouve quelque part un chemin pour essayer d'approcher le plus possible le grand message de ces artistes.
Là, on est dans la lumière, dans la douceur, dans une certaine touffeur à Marciac, en direct et en public, à quelques heures de vos concerts respectifs, Hervé Célin au piano solo, et puis de cette rencontre entre Richard Galliano à l'accordéon et de Wynton Marsalis à la trompette. On parle de la simplicité, de l'échange, on est entre amis avec tous les spectateurs souriants qui sont autour de nous. Richard Galliano, vous le rappelez, quand vous le rappeliez au début de notre entretien, cette musique, elle vient des lieux interlopes où on n'hésitait pas à sortir le couteau. Elle est faite de drames personnels, ceux de Edith Piaf et de Billie Holiday, dont vous allez interpréter le répertoire, bien sûr. Vous vivez avec cette douleur. Vous avez l'intention ce soir d'en faire transparaître un peu quelque chose dans la respiration de votre instrument ?
Oui, en fait, on joue notre vie. Voilà, on a tous des expériences différentes. Et construit voilà, de manière différente aussi. Et ce qui passe dans la musique, c'est ça, c'est notre, nos expériences, le fruit de nos rencontres, toutes ces choses qu'on fait passer dans la musique. Mais chacun, lorsque le spectateur écoute un artiste, chacun se raconte sa propre histoire, quoi. Mais l'important, c'est justement de faire passer une émotion un peu universelle. Et puis après, chacun se raconte son histoire personnelle, quoi.
Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir nos invités qui étaient... Merci pour eux. Qui est autour de cette grande table. Les spectateurs qui sont déjà présents avec nous en direct en public de Marciac seront sûrement ce soir un peu comme dans l'arène. On parlait de tauromachie tout à l'heure avec Alex Dutil, à jouer sinon leur vie, vous voir jouer la vôtre. Richard Galliano, Wynton Marsalis, thank you again, qui joueraient donc ensemble From Billie to Edith Piaf sous le grand chapiteau. Et puis à l'Astrada, l'autre scène qui a un désert d'arène aussi, Hervé Célin, vous serez en solo. Merci beaucoup d'avoir assuré la traduction.
Merci.
Avec votre respiration propre.
Oui, parce que ce sont des choses qui me parlent aussi, quoi. C'est pas seulement des mots, c'est de l'émotion. On parle de musique, on parle de vie, on parle de souffrance, mais de bonheur. Et ce sera, je pense, un grand bonheur pour nous tous ce soir d'être sur scène.
À présent, un petit bonheur, c'est la chronique de Marine Loyen, une chronique très free, comme toujours, dédiée à la culture pop, pour populaire, à la française.
Jusqu'à 14h, la grande table
d'été,
Martin Kénéen.
Nous partons pour l'Alsace, fêter la nature et les jardins. Depuis des siècles, le mois d'août est l'époque des moissons et de ces fêtes, des comices agricoles où l'on célèbre la récolte et ces journées de travail harassantes, le pain qui sera sur les tables toute l'année et le vin qui remplira les verres. Occasion pour les producteurs de présenter le fruit de leur labeur, de grands moments de sociabilité aussi qui ont perduré, évolué, héritage d'une France paysanne. Au XIXe siècle, ce sont les jardins ouvriers qui ont vu le jour, ces petits lopins de terre destinés à améliorer l'ordinaire. Des jardiniers qui ont eux aussi voulu célébrer leur travail. C'est l'origine du Corso fleuri de Célestat. Si au départ, le défilé se composait de charrettes garnies de fruits et de légumes, aujourd'hui, ce sont des chars couverts de dahlias colorés qui parcourent les rues de la ville. Ce week-end, on fête la 85e édition. Le thème du défilé sera « Dans les airs », un défilé imaginé par un artiste, dessinateur et graveur. Bonjour Éric Ball.
Bonjour.
Vous concevez les chars du Corso fleuri de la ville de Célestat depuis une dizaine d'années maintenant, c'est ça ?
Oui, c'est le 13e Corso fleuri que je conçois pour ma part.
Et comment on conçoit ces chars fleuris ?
Il y a d'abord la première étape, c'est de trouver un thème un peu universel et qu'on puisse décliner sur 12 chars. Et ensuite, il y a des maquettes qui sont faites en couleur à l'échelle pour chaque char. Donc il y a trois plans différents à l'échelle pour chaque char. Des vues de côté, des vues du dessus, des vues de face pour que la fabrication soit plus aisée.
Et ensuite, on passe donc à la fabrication.
Voilà. Donc là, c'est les employés des ateliers municipaux de la ville de Célestat qui s'emploie alors à fabriquer d'après ses plans. Voilà, donc en métal, en bois, en carton. Selon les motifs, on emploie le bois ou le métal. Depuis avril, hein, la fabrication commence au mois d'avril. Et voilà, jusqu'au 9 août.
Et à ce moment-là, vous commencez du coup à percevoir votre travail, ce qui n'existait que dans votre esprit ?
Oui, tout à fait. On voit l'évolution et surtout qu'on part d'une page blanche, en fait, et puis de voir comme ça cette évolution jusqu'au final et se voir concrétiser finalement assez fidèlement ces idées et ces dessins. Donc oui, c'est une fierté, satisfaction et surtout pour les yeux du public.
Et la particularité de ce corso, c'est un corso fleuri, donc les chars sont complètement fleuris. Expliquez-nous comment ça se passe.
En fait, il y a une structure en métal ou bois, ensuite c'est recouvert de papier. Il vient ensuite un marquage avec les couleurs, puis une colle. Et ensuite, toutes les associations vont venir la veille, c'est-à-dire vendredi, pour en coller les fleurs sur le char. Donc en tout, sur les 12 chars, à peu près 500 000 fleurs, 500 000 dahlias.
Multicolores ?
Oui, il y a toutes les couleurs. C'est d'ailleurs la spécificité du dahlia, c'est qu'il peut se décliner en plusieurs couleurs. Il est relativement costaud et il y a à peu près 7 couleurs. Donc il y a le jaune, le rose, l'orange, le rouge, il y a deux violets, il y a le blanc. Donc des couleurs très vives et voilà.
Donc vous êtes fait plaisir sur le dessin en sachant qu'il y avait toute cette palette de couleurs que vous pouviez utiliser ?
Tout à fait, on tient compte des couleurs mais surtout aussi de la taille de la fleur. Donc c'est comme, pour imaginer, c'est comme c'est un peu si au bout de mon crayon j'avais une fleur. Donc il faut tenir compte de la taille de la fleur pour imaginer ces chars. Il faut penser en fleurs, en fait. Hein,
Il faut penser en fleurs, mais il faut penser aussi en équilibre, j'imagine.
Bien sûr, hein, pas trop de porte-à-faux. Et puis, il faut que les formes soient lisibles, claires, parce que c'est quand même une parade. Donc, les gens, il faut quand même qu'ils sachent, qu'ils voient et qu'ils reconnaissent ce dont on parle. Et puis, il y a aussi une lisibilité des couleurs. Donc, je fais attention aussi au contraste des couleurs et des couleurs que je n'associe pas. Donc, c'est vraiment un travail... assez long.
Ça fait donc...
Mais c'est un plaisir, c'est vrai que c'est un plaisir parce que c'est de la création, hein, de la création pure. Et voilà.
Mais vous-même, vous avez sûrement des souvenirs. Vous êtes de la région, on l'entend à votre accent. Est-ce que vous-même, vous avez des souvenirs d'avoir assisté à ce genre de défilé ?
Oui, petit, j'avais assisté une ou deux fois au Corso et puis... C'est vrai que jamais j'aurais imaginé un jour travailler pour le Corso et concevoir les dessins. Donc, voilà, mais c'est vrai qu'il y a quelque part une âme d'enfant dans ces dessins. Et, parce qu'il y a cette gaieté, cette joie, ces couleurs. Et puis il y a les thèmes aussi sur l'imaginaire, sur le rêve. Dont l'enfant est un peu son domaine.
C'était la chronique de Marine Loyen. C'est Gourmandise. Vous l'aurez reconnu, évidemment, c'était au Corso fleuri de Célestat. À lundi pour une nouvelle chronique et pour une nouvelle grande table d'été. L'émission d'aujourd'hui était composée par notre petit orchestre réunissant Corinne Amar, Catherine Donnet, Lola Kahn, Marine Loyen, Claudia Prolongeau et Martin Kenéen à la réalisation. C'était Michel-Ange Vinti avec la complicité ici à Marciac de Stéphane Poitevin et Benoît Gaspard à la prise de son, chargé de production Franck Malabry.